Gamer Radio Spuntus.
Gamer Radio.
Gamer Radio.
Gamer Radio.
Gamer Radio.
Un quartier.
Une vue.
Du rythme et des infos.
De la bonne humeur.
Sur Brest et ailleurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur Gamer Radio. Aujourd'hui, on est le 22 avril et nous sommes avec France et Stéphane et nous avons une invitée spéciale. Laurence Landry est avec nous aujourd'hui. Laurence, elle est comédienne et elle est aussi prof de théâtre dans plusieurs structures de Brest. On a plusieurs questions pour toi, Laurence. La première, ce serait à la MPT du Gamer, quelles sont tes missions ?
Alors bonjour à tous aussi. C'est marrant quand tu disais le 22 avril, je pensais toujours à ma grand-mère qui disait « ne te découvre pas d'un fil ». Donc, mais alors, mes missions à la MPT du Gamer, moi j'anime les ateliers de théâtre, les ateliers pour les enfants, les adolescents et puis aussi l'éloquence. Et l'année prochaine, il y aura une nouveauté parce que je vais réouvrir un atelier théâtre adulte à la MPT du Gamer.
Alors du coup, tu as eu un projet professionnel différent, je pense, avant de venir ici à la Maison pour tous. Peux-tu nous parler un petit peu de ta vie professionnelle d'avant la MPT ?
L'avant la MPT, bah, en fait, j'ai vécu un peu à l'étranger. J'ai vécu en Angleterre, j'ai fait différentes formations. J'ai exercé différents métiers avant de vraiment aller vers le théâtre. J'ai travaillé à la Brétigny Ferry, j'ai travaillé dans les champs, j'ai travaillé dans la grande distribution, j'ai travaillé derrière un bar. Et puis voilà, un jour, quand j'étais petite, ma maman disait toujours... Mais ma fille finira sur les planches comme Jacqueline Maillan. Et je me dis, qu'est-ce que c'est, j'ai les planches. Et un jour, j'ai découvert ce que c'était. Et puis, je les ai jamais quittées parce que c'est magnifique. Le théâtre, c'est l'art du possible. On devient qui l'on veut. Et ce qui est intéressant au théâtre, c'est qu'on peut vivre plusieurs vies. Voilà, c'est ça qui me plaît. Plusieurs personnages, donc plusieurs vies.
Tu parles de théâtre. Qu'est-ce que tu veux faire au niveau théâtral? Je veux dire, comique, drame?
Alors... ta question est intéressante parce que justement, au théâtre, on aborde soit de la tragédie, soit de la comédie. Moi, j'ai pas d'a priori, j'ai pas un... Enfin, il y a des metteurs en scène qui vont travailler toujours le même répertoire, qui vont être beaucoup travailler Molière ou Shakespeare ou des grands classiques. Moi, j'aime un peu toucher à tout au théâtre. Des théâtres contemporains, des auteurs contemporains, des auteurs classiques aussi. Bah, comme cette année, je monte le voyage imaginaire, Molière ou le voyage imaginaire, où on a adapté des scènes de Molière, on les a modernisées un petit peu, actualisées, je dirais. Quelque chose de plus contemporain. Voilà. Mais Molière est toujours tellement contemporain aussi.
Comment es-tu arrivée à être animatrice à la MPT ?
Alors en fait, je dis « ben ». J'aime pas trop faire ce mot. À chaque fois, je dis « ben », mais c'est pas grave, c'est drôle. Je suis venue à la MPT. Quand je suis sortie du conservatoire à Brest, je me suis dit « mais voilà, c'est peut-être aussi une idée de partager cette passion que j'ai ». Je suis venue à la MPT proposer des ateliers théâtre et tout de suite, ils m'ont dit qu'ils étaient partants et voilà. Et à la MPT, ça fait 27 ans.
Ça fait un petit moment quand même.
Oui, mais je fais tellement jeune.
Ah, c'est sûr.
Je rigole.
Donc, tu es du quartier. As-tu des anecdotes à partager sur ta jeunesse à la MPT ?
Ah oui, oh là là.
Une ou deux. Hein.
Une ou deux. En fait, moi, j'ai habité le quartier de Saint-Marc parce que j'habitais rue Ackermann. Et je fréquentais la MPT quand j'avais 12 ans, de mes 12 à mes 16 ans, même avant, je pense. Je me souviens de l'inauguration, je me souviens du changement aussi, de la rénovation de la MPT. Je me souviens des directeurs qui s'y sont succédés. Je me rappelle de l'ambiance qui pouvait régner dans les années 80, c'était absolument incroyable. Et ce qui était assez dingue quand on y pense, c'est que tout le monde fumait partout. Ça, c'est quelque chose qui m'avait... C'est vrai, tout le monde fumait dans les ateliers, partout, ça fumait dans toutes les salles, dans tous les bureaux. Non. Voilà, mais bon, c'était une ambiance magnifique et je trouve que c'est tellement important, c'est tellement précieux d'avoir une maison comme ça, un endroit où on peut se retrouver, se poser, réfléchir, échanger, parler, enfin communiquer, c'est d'une importance vitale d'avoir un espace comme ça de liberté où on peut créer, on peut inventer, on peut faire de l'art, on peut toucher à plein d'activités, et je trouve que c'est plutôt bien et que les choses se fassent aussi collectivement. Moi, j'aime bien beaucoup l'idée du collectif dans le théâtre, où on fait les choses ensemble aussi.
Oui, c'est le vivre ensemble.
Voilà,
que tu aimes.
Qui m'intéresse.
Ouais. On a appris aussi que tu as vu une carrière à la radio. Alors, comme on est Gelmer Radio, peux-tu nous en dire plus sur ta profession?
Je croyais que tu allais parler de ma carrière au théâtre. Oui, une carrière à la radio, oui. J'aime beaucoup la radio, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Profondément. Quelque chose d'assez incroyable, comme ça, quand on sait qu'on rentre dans le foyer des gens ou par l'intermédiaire de la radio, comme ça, on va rentrer dans des lieux improbables, une voiture, enfin, nos voix arrivent dans les foyers, dans les voitures, et j'ai adoré travailler pendant plus de 20 ans à RCF, en fait, la radio RCF à Brest, Radio Rivage. J'ai quitté la radio pour diverses raisons, mais c'est quelque chose qui m'a passionnée. Je racontais des histoires aux enfants. Je contais des histoires et j'ai toujours eu des technico-réalisateurs qui ont été passionnés, pareil, pour moi, par le son, par mettre des bruits d'eau, des bruits de feu, des bruits de fleurs, de vent, et d'amener les enfants à écouter des histoires à la radio. Mon émission s'appelait Faubourg 110, mais avant Pampelune, l'heure des histoires qui venaient de la lune.
C'est joli.
Et en parlant de radio, tu animes des ateliers d'éloquence. Comment ça se passe et quels conseils aurais-tu à donner à des jeunes présentateurs radio?
Comme nous d'ailleurs.
Bah, écoutez, puisqu'on en parle, je vous trouve plutôt pas mal du tout. Je trouve que vous avez déjà des voix qui sont intéressantes, parce que c'est ça aussi, l'idée d'avoir une voix, ça se travaille une voix. Mais pour parler de l'éloquence... En fait, l'éloquence, c'est l'art de convaincre. Et la radio, si on prend la parole, c'est important de mettre de l'énergie, de l'émotion, de l'énergie, de la respiration, des temps de silence aussi, parce qu'on existe aussi dans le silence. Alors, je vous dis pas des silences qui vont durer une éternité à la radio, parce que sinon, les gens passeront sur une autre fréquence. Mais non, mais aussi, voilà, travailler sa voix, travailler aussi le corps, parce que le corps n'est pas fait partie aussi de intégrante de la voix, la façon dont on va se placer devant le micro, la façon dont on va respirer, dont on va aborder le texte ou les mots, les questions qu'on va poser. Tout ça est une question de voix et d'énergie, mais tout ça se travaille. Tout ça se travaille. Je veux dire, on peut naître avec un don, avec quelque chose, mais comme disait Jouvet, un don, on en a 5% et après, c'est beaucoup de travail. Donc voilà. On peut travailler en éloquence, oui.
Et est-ce que tu crois que derrière un micro, notre tenue corporelle et notre façon d'être, de sourire ou de se tenir droite, ouais, bon, s'entend à la radio?
Ah bah complètement. Le sourire s'entend à la radio. Il n'y a pas plus important que d'avoir, en fait, un peu de soleil dans la voix. Suivant, évidemment, ce dont on parle, on ne peut pas non plus avoir le sourire tout le temps. Mais en fait, à partir du moment où on aura une émotion vraie, en fait, tout ça est une histoire de sincérité. Hein, dès qu'on est sincère, si c'est pour annoncer quelque chose de terrible ou quelque chose de joyeux, tant qu'on est sincère, ça s'entend, évidemment. Quand on garde une part d'humanité, en fait, hein, sincérité et humanité.
Il y a quelques années, tu avais créé un théâtre avec des jeunes, sous le titre « Je me souviens ».
Et des moins jeunes.
Oui.
Aurais-tu le même projet à l'avenir ?
Alors, Je me souviens, était un projet absolument magnifique que j'ai eu la chance de mener avec une belle équipe ici aussi à la Maison pour tous. Il faut rappeler aussi que quand même, les gens qui travaillent ici, c'est important parce qu'ils font ce qui est aussi la Maison pour tous du Gelmer. Et ce projet, Je me souviens, a été fait en collaboration avec des gens qui n'avaient jamais fait de théâtre pour certains, et ça a été une très belle aventure en travaillant sur le souvenir et en traversant des années comme ça, et ça a été très beau, oui, très très beau. C'est sous super. Un chapiteau, c'était magnifique, et j'étais très fière de ce travail là
ouais, fière de leur travail à elles aussi.
Ah oui, vraiment, elles ont été extraordinaires. Et oui, j'aimerais beaucoup beaucoup repenser un projet, réécrire quelque chose, toujours dans cette idée de collectif, d'écrire, oui, quelque chose, un spectacle. Il y a des idées magnifiques qui me traversent l'esprit, oui. Ouais. De souvenirs. Ouais, je vais les garder.
Garde-les.
Et je vais y travailler. Je vais proposer ça à mon directeur.
Oui.
Là, on vient de parler du passé. Est-ce que tu as aussi des projets là pour l'avenir, soit en tant que du coup prof de théâtre dans les structures dans lesquelles tu travailles, ou en tant que comédienne ?
Alors, en tant que comédienne, je travaille actuellement sur un texte qui s'appelle Psyché. Vraiment, c'était un texte que j'ai écrit autour du miroir, sur la féminité, sur le regard, sur le regard qu'on pose sur soi-même, sur les autres, ou le regard que les autres posent sur vous. Et est-ce qu'on existe justement quand quand les regards s'effacent, quand on se retrouve seul face à ce miroir. Donc j'ai vraiment un travail de recherche autour de ça. Et là, ben justement, j'ai dit ben quoi. C'est pas bien pour quelqu'un qui travaille l'éloquence. Ce sont des petits mots faciles. Je tourne le 24 et 25 avril prochain, c'est-à-dire cette semaine, avec Clément Vesser, qui est un jeune réalisateur formidable. Et voilà, il était très intéressé par ce texte. On va tourner cette errance poétique dans Brest. Voilà. Et pour des projets de théâtre, oui. L'année prochaine, j'ai un très gros projet. Je veux emmener mes élèves, tous mes ateliers, sur les îles à Molène et Ouessant, avec un texte, il n'en reste qu'un, d'Agatha Christie. Et que déjà, même au départ du bateau, ils soient en costume et déjà dans leur personnage, sur la traversée, en arrivant, etc. J'ai un gros projet que je suis en train d'écrire là-dessus.
Oui, super. Mmh.
Est-ce que tu as des personnalités qui t'inspirent, que ce soit en théâtre ou en radio, par exemple, vu que tu as travaillé dans les deux domaines ?
Ouais, le théâtre, en radio, bon, je suis comme tout le monde. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup France Inter. C'est vrai que j'ai pas de noms qui me viennent comme ça. Je ne suis pas, il y a des choses dont je vais me rappeler, mais pas forcément des noms. Mais voilà, c'était ces voix qui rentraient dans nos foyers. Voilà, ma maman écoutait beaucoup France Inter aussi. Mon père, France Culture. Donc voilà, ça a un peu bercé mon enfance et je trouvais ça hyper intéressant. Et sinon, en théâtre, oui. Je dirais Brecht, Thomas Bernhardt, Shakespeare, Ariane Nouchkine. Bon, malheureusement, il se passe beaucoup de choses là-bas, au Théâtre du Soleil aussi, un peu désagréable. Mais bon, des gens de théâtre comme ça, Maria Cazares, Agnès Varda pour le cinéma, Federico Fellini, Fassbinder. Le cinéma italien m'a beaucoup influencé. Fellini m'a beaucoup influencé parce que Fellini, pour moi, c'est le maître de l'illusion. Et le théâtre, c'est un peu ça, c'est l'illusion, c'est faire croire tout d'un coup. On doit faire croire, nous les comédiens, que oui, effectivement, je vole sur un nuage, que je suis tout d'un coup un soldat dans une tranchée, que je suis une femme afghane cachée dans une cave en train de jouer du Molière parce que sinon je vais être assassinée. Voilà, enfin, on doit faire naître des personnages au plateau. Évidemment que on s'en inspire d'ailleurs. On s'inspire tous plus ou moins dans notre travail ou dans ce qu'on fait de gens qui ont vu, qui ont avant nous acté, joué et mis en scène. Oui, bien sûr. Et puis des rencontres aussi qu'on fait, des amis proches qui sont metteurs en scène, qui sont comédiens et qui m'inspirent aussi parce qu'ils sont inspirants, je veux dire.
Merci. Tu n'es pas sans savoir qu'une de tes élèves participe aussi aux ateliers radio avec Gelmer Radio. Et dans ce cadre, elle a enregistré un texte qu'elle avait écrit elle-même. On va vous le faire écouter aux auditeurs et à toi, Laurence, et puis on se retrouve juste après.
Bonjour, je m'appelle Zobie. Zobie la mouche. Dans la vie, je bzz bzz. Sur mon passage, je fais du bzz bzz. Bzz bzz. Et oui. Je suis une mouche, une espèce à part entière, il faut se le dire. On m'aime, ou plutôt, on ne m'aime pas surtout. Je dérange par mon bourdonnement, mes va-et-vient incessants et tourbillonnants, ou encore pour ma prétendue saleté. Le saviez-vous ? La mouche est en premier lieu un insecte. Or, les insectes, ça peut faire peur, d'autant plus quand ça vole bruyamment. La peur des mouches s'appelle la biptérophobie. Il s'avère que j'en souffre et que j'ai un véritable passif avec mes congénères mouchetés. Mais je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Je me suis très tôt intéressée à mon espèce. Je voulais étudier mes amis mouches pour mieux les comprendre et ne plus en avoir peur. J'agis en quelque sorte tel un chercheur en sociologie en pleine action. Pour des raisons géographiques évidentes, je ne me suis penchée uniquement que sur la mouche dite occidentale, l'unique mouche à qui j'ai eu affaire jusqu'alors. Toutefois, je tiens à souligner le fait qu'il existe en Occident plusieurs types de mouches. De la même manière que l'on peut distinguer les ruraux des urbains, il existe bel et bien une semblable distinction entre les mouches de ville, plus rapides, et les mouches de la campagne, plus lentes et plus bruyantes. Tandis que les premières se jettent à pleine balle sur des sacs poubelles abandonnés dans la rue, les autres côtoient désespérément les bêtes de la ferme. Par chance, il peut arriver que toutes les mouches parviennent à s'introduire au sein d'un foyer. Mais là encore, les situations divergent. D'une part, la mouche de ville se contentera des restes de nourriture, laissés à l'air libre, par un citadin un peu regardant et finalement sale. D'autre part, la mouche de la campagne aura le privilège de manger sainement la bonne nourriture préparée par la mère au foyer attentionnée. Néanmoins, si toutefois cette mouche vient des champs, elle aura plus de mal à se faire discrète au sein de cet environnement plus civilisé, le battement de ses ailes étant quelque peu dérangeant, surtout lorsqu'elle vous frôle l'oreille. La mouche vombrit, ou bourdonne pour se déplacer. C'est un fait. On a beau ne pas l'aimer, la mouche pollinise pourtant les fleurs. Elle est source de nourriture pour les poissons. Elle nettoie les déchets en s'en nourrissant et mène un combat acharné contre les espèces d'insectes nuisibles, telles que les pucerons et les chenilles. La mouche a donc toute sa place sur la planète Terre, aux côtés de l'espèce dominante, quelque peu intempestive, des humains. Saviez-vous que, dans certaines cultures, la mouche est considérée comme un messager spirituel, symbolisant la transformation et la croissance. C'est peut-être difficilement imaginable, mais oui, les mouches qui se grillent à la lumière allumée de la pièce sont des êtres vivants spirituels. Les mouches sont attirées par la lumière, après tout. La mouche aime aussi les environnements chauds et humides. Lorsqu'elle trouve son compte au sein d'un foyer, la mouche prend possession des lieux très rapidement. Elle le doit au vu de sa jeune mortalité. Les mouches sont certes nombreuses, mais leur vie n'est qu'éphémère. Elles ne vivent normalement qu'entre 15 et 25 jours. Durant ce laps de temps, elles doivent se nourrir et se reproduire. Face à ce phénomène mouche, les moyens de lutte existent pour les humains. Pour s'en débarrasser, il existe la solution des bandes collantes, accrochées au plafond de la cuisine et ou de la salle à manger. Mais peut-être la plus connue des solutions n'est autre que acheter des tapettes à mouches pour nous écraser, à même la table. Ce moyen rend la lutte contre la mouche visible, mais c'est sans compter la vision à 360 degrés des mouches qui nous permet d'éviter les coups, rendant le combat encore plus hargneux. Cette relation de mouche à humain, ou d'humain à mouche, vous l'avez compris, me passionne et me fascine. Elle dure depuis la nuit des temps et se profile encore pour des années. J'espère qu'en tout cas que ce voyage au pays des mouches vous a plu. À titre personnel, j'espère avoir fait mouche ce soir. Je pourrais entendre une mouche voler, alors je crois que j'ai réussi à capter et tenir votre attention au cours de mes propos. Et je vous en remercie pour cela. Zobi la mouche, vous remercie pour votre attention.
Vous venez d'écouter le texte La mouche de Natacha Cariou.
Zobi la mouche.
Zobi la mouche. Suite à cette écoute, Laurence, qu'est-ce que tu en retires en termes d'éloquence dans ce texte ?
Bah déjà, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que Natacha, elle a pris un contre-pied, qu'elle a pris l'humour pour l'éloquence. Parce que avoir l'humour en éloquence, c'est formidable aussi. Je veux dire, c'est un parti pris, mais c'est hyper intéressant. Elle a, et puis c'est courageux. Je veux dire, voilà, c'est Zobi la mouche, son histoire avec la mouche. Moi, je trouve ça très drôle. Et puis la manière dont elle l'a dit est claire, c'est joyeux, c'est, on l'écoute, on a plaisir à écouter, à l'écouter. Bah, c'est bien, voilà. Je trouve que c'est formidable. Ce qu'elle propose. Puis Natacha, vraiment, là, j'étais fière aussi parce qu'elle a été quand même sélectionnée au second tour d'éloquentia à Rennes, donc c'est plutôt pas mal au concours d'éloquence. Non, vraiment, je trouve que c'est très chouette.
Le texte était très, très original, je veux dire, parce qu'on avait toujours envie de savoir la mouche, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va aller butiner ? Est-ce qu'elle va venir sur le bout de ton nez ? Est-ce que... Non, bah, sinon, c'est très intéressant.
Ouais, elle nous emporte oui, tout de oui, suite, c'est chouette. Oui.
Ça donne presque envie de venir te voir en cours d'éloquence.
Ah ouais, avec plaisir.
Ben justement, en revenant à l'éloquence, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se déroule une séance d'éloquence de cet atelier et quelle serait la différence entre un cours de théâtre et un cours d'éloquence ?
Alors, en fait, un cours d'éloquence, on va démarrer l'atelier toujours par un échauffement de la voix, le corps, ce qu'on fera aussi au théâtre. Mais à la différence, c'est que... L'éloquence, c'est l'art de convaincre immédiatement. Et c'est l'énergie du texte, mais qu'on travaillera aussi en théâtre. Dire, c'est pas si éloigné que ça. Les sujets qu'on va traiter sont différents. La manière dont on va aborder les choses sont différentes. On va pas forcément faire une mise en scène sur l'éloquence. Quoique, pour l'atelier cette année, ils vont présenter l'éloquence à feu doux, ou l'art de la parole. Donc... on va aborder le texte ou les écrits de manière différente. Mais ça se recoupe, les choses se recoupent. On travaille le corps, la voix, la respiration diaphragmatique, les énergies, les émotions. Voilà.
Donc c'est plutôt le contenu qui change plutôt que la forme.
Oui.
Quoi.
Okay. La forme en elle-même, on est sur une pratique du corps aussi et de la voix, donc au théâtre aussi. On pourrait en parler pendant des heures, mais voilà, c'est pas si éloigné.
L'éloquence, je pense que la personne est seule à lire son texte aussi, ou est-ce que tu fais des choses en duo, ou est-ce qu'il y a des réponses
est... ouais, non, mais la question est très, très intéressante, France, parce que en fait, l'éloquence, c'est aussi quelque part retrouver la voix, retrouver sa voix, retrouver le plaisir de dire, le plaisir du texte, le plaisir des mots, le plaisir d'avancer avec sa voix, de retrouver en fait le plaisir d'être dans l'espace et de dire un texte.
Moi, je voulais savoir comment ça se passe. Vous êtes debout tout le temps ou position assise ?
Non, on peut être debout, on peut être derrière une table pour avoir des appuis, on peut être assis parce qu'on découvre le texte aussi dans les lectures. Voilà, mais la plupart du temps, on est en station debout parce que c'est que de l'ancrage au sol pour pouvoir dire un texte. Okay. Regardez les avocats avec les plaidoiries. Moi, c'est des exemples que je donne, des plaidoiries extraordinaires comme ça. Voilà, le corps est en mouvement, il acte, il est ancré au sol, il prend toutes les énergies pour dire ce texte. On a travaillé, par exemple, sur le texte de Simone Veil sur la défense du droit à l'avortement pour les femmes, qui est un texte absolument incroyable. Le courage de cette femme face à une assemblée d'hommes. Enfin, voilà, c'était intéressant de travailler ça, de travailler des plaidoiries. Mais pas seulement. Regardez, on a travaillé des choses aussi un peu humoristiques. Est-ce que tu avais une question, Clarisse, toi, qui t'avais imaginé quelque chose ou...
Ça fait combien de temps que tu fais du théâtre ?
Alors, j'ai commencé le théâtre, j'étais petite, j'organisais des spectacles sur la terrasse de ma grand-mère. Je crois que c'est là que ça a commencé. J'ai toujours aimé ça, en fait, jouer des personnages. Je crois que j'ai toujours fait du théâtre. Ouais. Un peu dans la vie aussi. Pas trop, hein.
Tu donnes des cours ici, mais tu nous as pas dit où ailleurs on pouvait te retrouver.
Ah oui, oui, je donne des cours aussi à la MPT de Saint-Pierre à Brest. Okay. Y a des cours le lundi, le mardi pour les adultes, le lundi pour les plus jeunes, le jeudi pour les ados et pour les plus jeunes aussi. Le mercredi, c'est ici, c'est à la MPT le mercredi. pour les petits, pour les ados et pour l'éloquence. Et puis ben, l'année prochaine pour les adultes en théâtre.
Et pour revenir sur l'éloquence et le théâtre de la MPT du Gamer, vous pourrez retrouver les restitutions de ce qui a été fait pendant l'année le 13 juin prochain à la MPT pendant la guinguette au Gamer. Eh bien, merci en tout cas, Laurence, d'être venue nous voir
C'était
aujourd'hui.
Un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçue.
Et puis, on vous dit à bientôt sur les ondes de Radio U.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
En scène, avant qu'on lève le rideau, déposons là tous nos fardeaux, nos peines. Et retrouvons nos oripeaux, ils sont plus vrais que notre peau. Ils viennent faire de nous des éphémères, capables de tous les frissons, d'apprivoiser mille chimères, et puis le temps d'une chanson, d'être Arlequin ou Cléopâtre. Y a-t-il une vie après le théâtre? En scène, une fois le rideau levé, plus rien ne peut nous arriver. La reine, ailleurs si prête à trébucher, promène sans s'effaroucher sa traîne. Chacun de nous reprend sa place, le bègue oublie de bafouiller, le timide est rempli d'audace, le muet peut s'écosiller, c'est leur cœur qui se met en garde. Y a-t-il une vie après le théâtre? En scène, c'est la vie, mais pas tout à fait. C'est une apparence, un reflet, à peine. Comme si juste on attendait que cet instant presque parfait survienne. C'est une quête si fragile qu'un souffle peut la déranger. C'est une fée au pied d'argile, c'est un éclat, c'est un danger. Mais c'est l'espérance opiniâtre. Y a-t-il une vie après le théâtre? En scène, on est le rêve du passant, de ses amours le remplaçant. On traîne un univers envahissant, dont la tendresse fait qu'on s'en souvienne. On sourit, on salue, on brille, on garde plus que de raison son diadème de pacotille, et on ramène à la maison ce pauvre moi qu'on idolâtre. Y a-t-il une vie après le théâtre? Scène. Le temps s'égrène au ralenti, mais l'heure petit à petit s'amène. Où le dernier mot retentit, où le rideau nous engloutit, obscène. Et sans qu'au dehors on le sache, dans les coulisses on fait son deuil, avec un restant de panache, d'une existence en trompe-l'œil, d'un cœur qui s'arrête de battre. Est-il une vie après le théâtre? On sait qu'il n'y aura pas de fleurs pour accompagner le silence, loin de la scène, loin du cœur, plus de musique pour la danse. On aura cessé de combattre. Y a-t-il une vie sans le théâtre?